Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
RMC. Oh, c'est gonflé. Oh, oh, mortel, donne-moi ton short.
Basket time.
M'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie.
C'est fini, champion d'Europe de basket, messieurs dames. Jacques Monclar est aux anges, on est tous aux anges.
Pierre Dorian.
Basket Time sur RMC, votre rendez-vous basket avec notre Dream Team, Fred Weiss, Stephen Brun et Arnaud Valadon aujourd'hui. Bonjour messieurs.
Bonjour. Salut mon petit Pierrot.
Guten Tag.
Valadon, direct d'Allemagne bien sûr, pour un spécial Euro. Là on vous gâte cette semaine parce que vous avez droit à deux podcasts Basket Time pour le prix d'un. C'est un spécial Euro, on va faire le point, le bilan sur la première phase de l'équipe de France de basket et bien sûr se projeter sur la suite, c'est-à-dire les phases finales. Les Bleus peuvent-ils toujours rêver du titre ? On est resté un petit peu sur notre fin, hein, sur cette première phase, mon cher Fred.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Le niveau a-t-il déjà été aussi relevé à l'Euro ? Le basket européen a-t-il déjà été si fort ? Ça, c'est un débat fort intéressant, surtout avec Fred, amoureux du basket européen, avec Stephen, admirateur de Dirk Nowitzki et de Luka Doncic. On va faire ça dans le deuxième débat, pardon. Et puis, dans notre partie historique, vous allez me dire quelle est la meilleure équipe de l'histoire championne d'Europe ? Vous pouvez remonter jusque dans les années 50 si ça vous fait plaisir, messieurs, dames. Le quiz sera consacré en exclusivité à l'Euro de basket. Et puis, bien sûr, je vous rappelle que dès mardi, vous aurez droit à un nouvel épisode de Basket Time. En fonction de l'actualité, nous parlerons soit de la NBA, soit de l'Euro. Rendez-vous mardi sur rmc.fr. Mais donc, tout de suite, on démarre avec la deuxième partie de l'Euro pour les Bleus.
Menés de 10 points les Bleus, ils avaient bien commencé, ils sont derrière, le réveil de Luka Doncic, l'un des meilleurs joueurs du monde, 20-19 pour les Slovènes, donc 13 points pour Luka Doncic.
Here's Doncic. Oh! Are you kidding?
Ah, c'est un match de fou furieux, 82-79 pour la Slovénie, 3 points de retard pour les Bleus à 2 minutes de la fin, et Luka Doncic vient de marquer son 47e point, deuxième performance de l'histoire à l'Euro, c'est incroyable.
Doncic. It's the bump, and he is going to the line, and one.
Des Bleus 88-82 dans un match incroyable. Rendez-vous samedi pour les huitièmes de finale. La France jouera contre la Turquie à Berlin.
Alors, c'est un Basket Time spécial Euro, donc à la fin de cette phase régulière. Donc, la France a un bilan mitigé, avec deux défaites et des prestations très irrégulières. Des concurrents hyper fort à venir en phase finale. Les Bleus peuvent-ils toujours rêver du titre ? C'est vrai qu'on est descendu d'un niveau là. Avant l'Euro, on se demandait si on était favori. Là, quand même, après cette première phase, on se demande vraiment si on a le niveau pour être sur le podium de cet Euro. On est d'accord, Fred ?
Oui, on est d'accord.
Pourquoi ?
On est complètement d'accord. C'est vrai que tu parles d'irrégularité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'irrégularité sur, putain, j'ai du mal à dire, sur un même match. C'est-à-dire que sur... Il y a des actions qui sont fantastiques, où vraiment l'équipe joue collectivement de façon très intéressante, où ça défend bien et où on court, parce que clairement on est une équipe qui a besoin de courir, et d'un seul coup, patatras, il ne se passe plus rien, on se dribble sur le pied, j'ai vu Thomas Hortel se dribbler sur le pied, je crois que je ne l'avais jamais vu, je ne sais pas ce qui manque, il manque de tête. J'ai l'impression que dans la tête, on n'est pas bien, qu'on n'est pas prêt.
Il manque pas juste un peu de talent, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'est pas un peu court en effectif avec les absences.
On est un peu court, c'est vrai. En plus,
simplement ça la raison.
On a intégré deux mecs qui revenaient de blessure, donc c'est un peu compliqué. Entre Albici et Fall, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément au top de leur forme. Et c'est vrai que ça peut manquer un petit peu. Mais j'ai l'impression que quand on les voit jouer bien, on a ce talent-là. On a cette capacité à le faire. Moi, je l'ai vu contre la Slovénie. Et des moments, je commençais à m'enthousiasmer en me disant même les Slovènes ne pourront rien faire. Même un Luka Doncic, le feu ne pourra rien faire. Et d'un seul coup, patatras encore une fois. Et on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Quoi.
Ce match contre l'Allemagne, là, le premier où vraiment on n'est pas invité, il est révélateur de notre niveau ou
Non, pas vraiment. Parce que je pense qu'on passe au travers de cette rencontre. On ne met que 63 points.
c'est un match d'ouverture. Après, il faut aussi recontextualiser. Je crois qu'on avait un groupe qui était le groupe le plus dur de l'Eurobasket. Quand tu compares avec les autres, on a été malchanceux sur ce groupe-là. Donc, il faut aussi juger nos performances par rapport à l'adversité qu'il y avait dans ce groupe-là. Allemagne, Slovénie.
Ah, mais là, on parle de prétendants au titre. Enfin, en tout cas, prétendants au podium.
Oui, mais qui te dit que dans ce groupe-là, les prétendants au podium, il n'y en avait pas trois? Il y avait peut-être l'Allemagne, il y avait peut-être la Slovénie, il y avait peut-être nous. Et qui te dit que les Lituaniens, qui eux étaient à 0-3 après trois matchs en ayant perdu à chaque fois d'une possession, les Lituaniens, en huitième, ils vont peut-être passer, ils vont peut-être aller aussi loin que nous. Donc cette poule, elle était monstrueuse. Et puis on a un manque de vécu collectif. Quoi qu'on en dise, même s'il y a une ossature qui était là à Tokyo, tu t'aperçois qu'il y a trop de joueurs qui n'ont pas ce vécu collectif que peuvent avoir Nico, Nando, Evan et ces garçons-là qui ont l'habitude de jouer ensemble.
Et vécu très haut niveau au FIBA aussi.
Exactement. Elio Kobo, Timothée Loué au Cabarro, Théo Malédon n'ont pas l'habitude de jouer ces matchs-là de très très haut niveau européen. Et il y a un truc, moi, qui me choque dans cette équipe de France, c'est les balles perdues. C'est ce qui nous flingue nos matchs. On est la troisième équipe qui perd le plus de balles. On, est à, ouais, on a plus de 16 ballons perdus.
C'est pas de la cause à effet, justement. On n'a pas de vécu collectif, donc logiquement,
après,
on perd des ballons.
Après, il y a des ballons perdus. Niveau National 3,
on a l'impression que parfois, c'est un blackout. Il ne se passe rien. On ne sait plus où on est.
Ce qui me dérange de cette équipe de France, c'est que on n'a pas encore fait 40 minutes d'un niveau régulier. Il y a des trous d'air. Contre la Hongrie, il y a un trou d'air qui est monumental. Contre la Bosnie, il y a un trou d'air qui est monumental. On n'arrive pas à gérer les temps faibles quand on est un peu moins bien, parce que ça arrive à toutes les équipes d'être moins bien. Mais on n'arrive pas à les gérer. Et quand on a des trous d'air, on prend des blitz, Pierrot, on prend des 12-2, des 14-4. Et après, c'est plus compliqué. Donc on a... Moi, ce qui me rassure, c'est que notre meilleur match, on l'a fait sur le dernier match de poule contre les Slovènes. Alors certes, ça se traduit par une défaite. On va en reparler de ce match-là un peu plus tard. Mais c'est là où on a été le meilleur. On a trouvé du scoring intérieur, où Rudy Gobert, mine de rien, fait son meilleur match. Il joue beaucoup. Il est bien trouvé par les joueurs extérieurs.
Alors, je vais mettre un petit bémol d'entrée.
Tu vas me dire qu'il n'y a pas Mike Toby?
Il n'y a pas Mike Toby. Il n'y a pas vraiment d'intérieur de base en Slovénie. Et si en plus Mike Toby n'est pas là, forcément, ça complique la tâche défensivement. Encore une fois, je ne veux pas enlever le mérite de Rudy Gobert. On l'a bien trouvé. Effectivement, c'était le point faible de la Slovénie. Et on a attaqué ce point faible. Je suis d'accord. Sauf que concrètement, qu'est-ce qu'il y a en face, quoi.
Arnaud, est-ce que la confiance a un peu quitté les rangs des Bleus avec ce premier tour mitigé?
Alors écoute, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est les montagnes russes. Les joueurs, évidemment, leur objectif, c'est d'aller chercher l'or. Mais c'est vrai qu'on a envie de mettre un petit peu de mesure. On va voir là dans les prochaines heures Vincent Collet et pas mal de joueurs. Eux, les membres de l'équipe de France, Evan Fournier, Rudy Gobert, ils dérogent pas de leur ligne parce qu'ils ont envie d'aller chercher l'or et qu'effectivement, vous l'avez rappelé à juste titre, la poule de la mort hein, dans laquelle les Français se trouvaient. On peut même situer, il y avait parler de l'Allemagne. Parce que jouer contre le pays hôte, c'est pas évident. Et la Bosnie, qui a été un sacré poil à gratter quand même, qui ne fera pas les 16e. Donc c'est quand même aussi à noter. Donc ce match contre la Slovénie a vraiment fait du bien, parce que même Vincent Collet l'a noté, c'est le meilleur match des Bleus. On marque encore plus de 80 points. On semble trouver un équilibre. Certes, il y a toujours ses balles perdues, mais enfin, Vincent Collet a trouvé son 5 de départ avec Andrew Albici, avec Terry Tarpe. On retrouve Thomas Hurtel qui ressort comme aux Jeux Olympiques dans un rôle de 6e homme. Bref, cette équipe, elle se met en place petit à petit. Alors peut-être qu'ils vont être trop courts, c'est sûr, mais Mustapha Fall, voilà, retrouve un petit peu de rythme. Andrew Albici, encore un peu plus. Ils ont intégré le groupe au dernier moment pour faire partie de cet Euro. Et heureusement, parce que même sur le peu de temps de jeu qu'ils ont, eh bien, ils sont importants, ils sont décisifs, ils calment tout le monde. Pour l'instant, voilà, les joueurs ne dérogent pas forcément de leur ligne à aller chercher ce titre de champion d'Europe. On sera fixé dans un peu plus d'une semaine, mais c'est vrai que le parcours, voilà, refroidit un petit peu les ardeurs de tous les observateurs.
Alors surtout que ce qui arrive s'avère coriace, et je parle pas que de la Turquie, parce que de toute façon, il faudra battre des équipes très très fortes pour être champion d'Europe. Et ce premier tour semble vouloir dire que tu ne pourras pas être champion d'Europe sans un méga joueur, c'est-à-dire sans un Jokic, un Doncic ou un Giannis. Peut-être l'Allemagne à la limite, car un collectif peut-être suffisant pour aller au bout, mais nous, est-ce que ce n'est pas ce qui nous manque finalement? Un joueur hors norme?
Si, un petit peu, parce que Evan est finalement là, au niveau du scoring, il a 15 points de moyenne, mais je trouve qu'Evan... On l'a perdu depuis cette saison à New York. Il se contente aujourd'hui de prendre que des tirs à 3 points. Je crois qu'il prend 7 tirs à 3 points. C'est plus de 50% de ses tirs sur la compète. Il a des mauvais pourcentages. Il a à peine 10 d'évaluation. Il fait plus grand chose. Alors que je
retrouve... Imagine une année complète à te dire, allez, t'attends là dans le coin et on va te donner le ballon. Et d'un seul coup, il faut qu'il transforme son jeu. Alors, tu sais très bien que ce que je peux penser du jeu des vannes en général. Mais quand même, là,
c'est complètement ta faute. Moi, je le retrouve plus sur les drives, sur les percussions, aller provoquer des fautes, aller mettre des paniers sur les grands.
Une année sans le faire, hein, ou quasiment. Hein. Donc, pas évident.
Après, il y a une vraie satisfaction, c'est Gershon Yabusele, qui est le joueur le plus régulier de cette équipe de France. Il a fait quoi 4 matchs, parce qu'il ne joue pas le dernier, il a une petite gêne à la cuisse. Les 4 fois, il va au-dessus de la barre des 10 points. Donc, on a trouvé un vrai poste 4 offensif. Maintenant, Pierrot, à partir du moment où tu finis pas premier, tu sais que tu es dans la tourmente. Tu es dans la tourmente parce que ton tableau est compliqué. Ton tableau est compliqué, mais après. Est-ce que c'est pas une logique? On parlait de cet Eurobasket qui est peut-être le plus relevé de l'histoire. Est-ce que c'est pas logique de jouer des grosses équipes à un moment donné?
Ça, c'est pas grave si toi t'es fort. En fait, toute l'interrogation, elle est là. C'est-à-dire que, on peut faire le point à Arnaud sur le tableau qu'attend la France. Est-ce que même face à la Turquie, on est favori?
Quand même, surtout la Turquie qui sera peut-être privée de Shane Larkin, qui certes ne fait pas une grande compétition, alors, le meneur naturalisé.
Alors admettons qu'il soit là, parce que essayons d'y voir clair. C'est quoi le niveau de la Turquie aujourd'hui?
La Turquie, c'est un duo et même trio avec Shane Larkin, avec Cedi Osman, avec Alperen Sengun, les deux joueurs NBA. Ça shoot et Stephen et Fred, ça shoot énormément à 3 points. Quand on fait les ratios, voilà, ça artille beaucoup de loin. Ça joue un petit peu de manière euphorique. Une première partie un petit peu compliquée, marquée par les événements de ce Géorgie-Turquie où il y a eu une histoire de bagarre dans les vestiaires où Korkmaz se serait fait cogner par des joueurs géorgiens en tenue. Donc c'est une équipe qui a quelque chose en elle, une âme. Et avec l'horaire du match midi, on ne sera peut-être pas forcément réveillé, ils vont nous sauter à la gorge. Effectivement, il y a forcément danger, mais les Bleus restent quand même favoris de cette rencontre.
Les Turcs, faut pas les faire passer parce qu'ils ne sont pas. Ils ont gagné 3 matchs, hein, signés dans une poule qui était bien plus faible que la nôtre. Ils ont exactement le même bilan que nous. C'est une équipe, à l'image de son coach Ergin Ataman, où il n'y a pas beaucoup de rotation, le banc est très faible. Il y a 5 joueurs entre 25 et 35 minutes. Ça tire à la corde sur Larkin, sur Cedi Osman, sur Alperen Sengun, qui fait une compète incroyable, le pivot des Rockets. T'as Korkmaz, t'as Sertac Sanli, qui est rompu au joute d'Euroleague. Et après... Meli Mamutoglou, j'ai envie de le mettre un petit peu parce qu'il a des références en ligue.
Il est capable de
mais après, c'est pas terrible. Hein. En profondeur de banc, on doit pouvoir les épuiser. Bien sûr qu'ils peuvent prendre des coups de chaud, ils ont des gros joueurs, mais ils s'appuient sur 3, 4, voire 5 joueurs. On doit être au-dessus, Pierrot, en termes de rotation, on doit les cuire sur 40 minutes.
Et ensuite, on va se taper la Serbie de Nikola Jokic, c'est ça, Arnaud?
Alors, on fait le vainqueur de Serbie-Italie, l'Italie sans Gallinari, qui a fait quatrième de sa poule. Ça, c'est pour le quart de finale. Et en demi-finale, on retrouverait, si on passe, les Slovènes, qui eux ont un tableau. Ils ont terminé premier de notre poule, les Slovènes. Pour vous dire, ils jouent la Belgique en huitième, et en quart, ils jouent le vainqueur s'il passe de Ukraine-Pologne. Donc on est quand même quand on parlait de déséquilibre qu'il y a dans cet Euro et dans cette partie de tableau. Donc voilà pour le parcours jusqu'en demi-finale, potentiellement Serbie en quart, potentiellement la Slovénie en demi, et puis après en finale ce sera peut-être de l'autre côté, soit les Grecs, les Lituaniens, les Espagnes, hein, Espagne-Lituanie qui est peut-être une des plus belles affiches de ces 16e de finale. Donc oui, si on est champion d'Europe, c'est
8e de finale,
c'est 8e de finale, pardon. Si on est champion d'Europe, effectivement, il y aura eu un parcours. C'est les 12 travaux d'Hercule, quoi.
Qu'est-ce qu'on peut faire contre Nikola Jokic
si on avait la réponse, on aurait déjà donné à toutes les équipes NBA. Hein.
Rudy Gobert doit savoir. Il a joué.
Mais il a souffert souvent contre Jokic, non?
Il a souffert, mais il n'a pas été ridicule, Rudy, face à Jokic. Après, c'est une toute autre organisation. Moi, les Serbes, quand je les vois jouer là sur la première phase de l'Euro. Collectivement, c'est hardcore. Le jeu sans ballon, la vitesse d'exécution. Les mecs, ils sont au bon endroit au bon moment. Ils ont des mecs de très haut niveau. Lucic, Kalinic, Guduric, Vasily Micic.
C'est Milutinov qui rentre et c'est pas dégueu.
Et encore Jokic, j'ai l'impression qu'il a pas enclenché la 5e voire la 6e, Pierrot, parce qu'ils ont déroulé.
Il joue très peu. Hein.
Ils ont déroulé sur cet Eurobasket. Il a été économisé.
Le problème, c'est qu'en Allemagne, il y a plein de bons kebabs. Et donc peut-être ça a ralenti sa compétition.
Peut-être. Mais ils n'étaient pas en Allemagne sur la première phase.
Tu fais
bien de parler de l'Allemagne, parce qu'il y a un paramètre à prendre en compte. C'est que quand on va jouer la Turquie à midi, à Berlin.
Oui. Là, on est à l'extérieur.
On est à l'extérieur parce que la diaspora turque est omniprésente à Berlin.
Et Ataman, il a branché tout le monde déjà en disant exactement. On est à la maison.
C'est pas plus mal ça. Il vaut mieux ça qu'une monde. Ambiance de feu que.
Que
un
midi,
une
salle vide. Ouais. T'as bien raison. Pierrot. C'est une belle remarque, c'est ce que tu me dis.
Alors, ça y est, il est lancé. C'était comme Jokic, tu montes en puissance. Ça démarrait très sérieux, tranquille. Et là, bam, on va avoir droit aux blagounettes.
Là, c'est un débat sérieux.
Dernière chose sur cette première phase, c'est quoi le problème avec les arbitres? Expliquez-moi pourquoi Vincent Collet est en colère, pourquoi il y a une telle polémique.
Il n'y a pas que Vincent Collet qui est en colère. On stigmatise parce que nous, on est français et qu'on a vu la conférence de Vincent Collet. Ergin Ataman a été fou furieux parce que je pense qu'il se fait voler 22 secondes une fois sur un match en poule.
Il y a des Lituaniens qui avaient des lancers francs à tirer.
Ils ne les ont pas tirés. Donc je crois que la polémique est plus large que Vincent Collet sur le match de la Slovénie. Il y a une vraie carence. Alors là, on repart sur les guerres FIBA Euroleague puisque les arbitres d'Euroleague sont blacklistés par la FIBA. Donc tu te retrouves avec
les arbitres d'Euroleague sont les meilleurs.
Donc tu te retrouves avec des arbitres qui arbitrent en Basketball Champions League, qui n'est pas la plus grande des compétitions européennes, qui n'ont peut-être pas l'habitude de ces matchs à très haut niveau. Donc oui, il y a une vraie carence arbitrale sur cet Eurobasket.
Il y a une phrase incroyable de Rudy Gobert justement après le France-Slovénie. Il dit parfois quand on parle aux arbitres, ils parlent pas bien anglais. Je trouve ça sidérant.
Alors, c'est dingue. Ça, je suis d'accord. Effectivement, c'est la différence. Quand tu es un arbitre d'Euroleague, tu parles forcément très bien anglais parce que c'est une condition sine qua non.
C'est un problème de compétence, c'est pas un problème de malhonnêteté.
C'est un problème de niveau. Pour moi, c'est un problème de niveau. Sur le France-Slovénie, attention à ne pas dire qu'on a perdu à cause des arbitres. Je suis pas sûr qu'avec un arbitrage cohérent, on passe quand même. Mais
ils ont été mauvais des deux côtés, c'est l'avantage.
Il y a des choses, moi, qui m'ont outré. Cette faute offensive sifflée à Vincent Poirier qui va chercher un rebond, on lui tape, il descend les bras, il voit pas qu'il y a quelqu'un en dessous, c'est Doncic qui est là, qui a des points de suture.
Antisportive
là-dessus. La dernière action sur Evan Fournier.
C'est une différence de traitement, en fait.
La dernière action d'Evan Fournier où il perd le ballon, il y a plaquage de Chabal haut à la gorge. Clairement, perte de balle, plaquage haut, gorgette, ballon perdu. Enfin, il y a des choses qui sont obvious.
Les Slovènes râlaient après l'arbitrage, ils ont un peu de technique.
Après, on parle de traitement de faveur à Luka Doncic, qui est, oui, insupportable avec les arbitres. Oui, il aurait peut-être dû prendre de technique et aller au vestiaire un peu plus tôt.
C'est impossible de lui mettre la deuxième.
C'est dur de la mettre, très dur.
Mais à un moment donné, faire abstraction des statuts.
Mais encore une fois, c'est pas des arbitres qui sont habitués à gérer des égos aussi importants.
Exactement.
Donc, forcément, c'est compliqué.
C'est plus facile de mettre des techniques à Lassi Tuovi, coach de la SIG, qu'à Luka Doncic.
C'est un basket time exceptionnel puisque cette semaine, on s'adapte bien sûr au calendrier de l'Euro pour vous offrir deux épisodes de Basket Time, donc celui-ci pour faire un bilan de la première phase et se projeter sur la suite de l'Euro, un Euro d'un niveau exceptionnel. Goes himself, that was only going to go one way. Watch out! Anthony Kumbo, put the dunk in the end of the quarter. Jokic, everybody getting a touch, swiftly. Nedovic. Jokic, free on the perimeter. Let's pick your poison. And you never want to pick him. Doncic again, he's feeling it. Alors, la question elle est toute simple. Est-ce qu'on a déjà vu un niveau plus relevé que cet Euro actuel là qu'on est en train de vivre avec beaucoup de stars de la NBA? Et est-ce que tout simplement le basket européen a déjà été aussi fort qu'en ce moment? Arnaud, les grosses écuries sont impressionnantes, les stars sont au rendez-vous. Il n'y a pas grand-chose à jeter dans cet Euro. Hein.
Non, les stars, c'est clair, sont présentes. Alors, avec ce bémol qu'effectivement la Grèce et la Serbie ont eu des poules un peu plus faciles que celles de la France ou de la Slovénie. Évidemment, la grosse performance, c'est Luka Doncic contre les Bleus, 47 points, deuxième meilleure performance de l'histoire de l'Euro. Alors devant, c'est Eddy Terrasse, le Belge en 1957 qui avait mis 63 points.
Levé des canons, Terrasse.
À l'époque, on jouait même en extérieur pour vous dire, donc ça paraît totalement loin. Quelques jours avant, c'est Giannis Antetokounmpo qui avait lâché un 41 points contre l'Ukraine. Évidemment, ils intègrent les plus grandes performances de l'histoire de l'Euro. On n'oublie pas Jokic parce qu'il, certes, il a eu peu de temps de jeu, mais il tourne quand même à 20 points, 9 rebonds en seulement 24 minutes. Il a quand même lâché un petit 46 déval, 19 points, 11 sur 13, 11 rebonds, 5 passes décisives, 15 interceptions contre Israël. Donc oui, les grosses stars sont là, évidemment.
11 sur 13, c'est impressionnant, 13, ouais. Non, je relève juste ta stat, Arnaud.
Ouais, donc c'est, ils sont là, ils sont heureux d'être là, de défendre leurs couleurs. Effectivement, il y a une grosse effervescence ici au niveau du basket. On voit à Berlin la Mercedes-Benz Arena, une magnifique enceinte. Donc bref, tout le monde est content de voir ces grandes stars. Après, sur l'expression collective, on attendra un petit peu pour la Serbie et la Grèce de jouer des équipes un peu plus huppées, mais on a déjà eu un bel avant-goût avec la France, Slovénie, Lituanie, Allemagne.
Est-ce qu'ils vont nous laisser zoom-zoomzer dans la Mercedes-Benz Arena? non mais Pierrot, pour revenir sur les performances.
Je lui ai demandé s'il avait vu Lord Co
City, Mercedes.
Je t'ai laissé y aller.
Mais pour revenir sur les performances, alors il y a eu des euros fantastiques, Pau Gasol, Tony, Dirk ont fait des euros fantastiques, Galis, Petrovic un peu plus tard. Mais là où je suis choqué, alors les trois monstres font des trucs incroyables, c'est qu'il y a des performances de garçons aussi qui ont fait des phases de poule monstrueuses. Lauri Markkanen, Jonas Valanciunas, Alperen Sengun, le Turc Franz Wagner, Vezenkov, t'as des mecs
qui ont froissé
les poules par les chiffres. T'as
Vezenkov, deuxième scoreur.
Oui, t'as au moins 10 mecs qui ont déjà fait plus de 30 dévals sur un match. Dibos, t'as envoyé 9 tirs à 3 points avec 12 passes décisives avec la Bulgarie. Il a fait, je sais plus combien, 38 d'évaluation. T'as des performances hors normes qui, par le passé, de mémoire, ça n'allait pas si haut. T'avais les stars qui brillaient, mais t'avais pas de joueurs dans de petites équipes comme ça qui faisaient. Là, c'est hallucinant. Lauri Markkanen, ce qu'il a fait avec la Finlande. Alors, bon, certes,
avant les petites équipes, tu sais ce qu'elle faisait? Elle faisait une sorte de mur.
Oui.
Et elle marquait le moins de points
Exactement.
Possible. C'est-à-dire qu'elle jouait en moins de positions possible. Sauf que maintenant, le jeu NBA est tellement, pousser l'Europe à jouer
influencer.
Comme ça. Influencer l'Europe, exactement. Que maintenant on joue comme ça aussi. T'as vu comment ça va vite la Grèce maintenant par rapport à avant ?
C'est la question que j'allais vous poser. C'est est-ce qu'en fin de compte le basket européen est en train de suivre la voie tracée par la NBA ou c'est de plus en plus offensif ou il y a de plus en plus d'adresse ?
Je pense que les mecs sont de plus en plus forts.
Il y a de plus en plus de possession.
Il y a plus de possession, même si je trouve qu'on n'est pas encore parti dans l'abus offensif. Il n'y a pas eu énormément de matchs au-delà des 95 points ou des 100 points. C'est entre 80 et 85 points. Mais quand tu vois que Luka Doncic est capable de mettre sur un match FIBA 47 pions sur 86 de son équipe. J'ai pas de mots en fait.
C'est révoltant quoi.
J'ai pas de mots pour qualifier ce qu'a fait Lucas Doncic. C'est ouf.
Non, c'est beau.
Parce que Vincent Collet, il y a des gens qui me disent est-ce que tu crois pas que la tactique de Vincent Collet c'était de laisser scorer Lucas Doncic pour bloquer les autres? Je dis ok,
c'est pas une mauvaise tactique.
C'est pas une mauvaise tactique, sauf qu'en basket FIBA, quand il y a un match qui tourne aux alentours des 80-85 points, je suis pas sûr que de laisser un mec mettre 47 pions, ce soit vraiment une tactique de Vincent Collet. Parce que Vincent Collet, il a testé tout le monde. J'ai même vu Laurent Foirest à deux doigts de rentrer pour essayer de défendre sur Lucas Doncic.
Ils ont fait
des choses. Quand NBA, tu puisses tenter ça avec Luka Doncic parce que t'as des Jalen Brunson, parce que t'as des Dinwiddie qui eux sont capables de mettre des 30 pions, mais avec la Slovénie il y a un mec qui t'a battu à lui tout seul
parce que le reste de l'équipe slovène décevant.
Mike Toby était pas là. Muric,
alors que leur relation est hyper importante. Hein.
Prepelic n'a pas mis un pied devant l'autre. Blazic n'a pas mis un pied devant l'autre.
Dragic
qui a mis 14 points, mais avec des mauvais pourcentages. T'as Muric, le petit filou, qui nous a envoyé 2-3 bombinettes à la fin et qui nous a fait mal. Mais t'as pas un mec qui a fait un match sensationnel à côté de Lucas Doncic.
En même temps, il reste plus beaucoup de points à répartir après. Hein,
oui. Ces mecs-là, les trois étaient attendus. Tu te rappelles, il y a une semaine, on avait fait qui va marcher sur l'Eurobasket. Il y avait eu du Yanis, il y avait eu du Lucas Doncic.
La question n'est pas tranchée.
Non, mais les trois, ce qu'ils ont fait là, Pierrot. Alors, ça fait mal au chico.
La question, on la décline. On se demande pas si c'est le meilleur euro de tous les temps, mais on parle du niveau global du basket européen. Est-ce qu'on a déjà connu ça? Alors, parce que tu as cité des grands noms, des Pau Gasol, bien sûr, Dirk Nowitzki, Tony Parker, mais peut-être que cette densité, on l'a jamais eu, Fred. Hein,
déjà, on va reparler de ces trois-là quand même. Sur les trois-là, tu as un double MVP, un MVP aussi, et un futur MVP. NBA. Donc concrètement, est-ce qu'on a déjà eu ce potentiel dans un euro ?
Je crois que t'as deux double MVP, non ? Parce que Yanis, il n'est pas double MVP ?
Non, MVP.
Si. Deux fois, et deux fois de suite. Et
ah oui, non, c'est
fois.
MVP et finale, pardon, autant pour moi. Donc c'est incroyable. On n'a jamais eu cette densité. On n'a jamais eu des joueurs de ce calibre. Et effectivement, les autres joueurs NBA aussi dominent, apportent. Markkanen, ce qu'il propose avec la Finlande, c'est aussi assez incroyable.
Hein. Sont-ils les trois meilleurs joueurs du monde actuellement ?
Moi je suis pas objectif, mais moi je dis oui.
Il y a Steph quand même, Steph Curry quand même,
mais là.
Kevin Durant, c'est dur de l'enlever aussi quand même. Même s'il a
fait une saison affreuse. C'est pas le mec le plus détestable de la NBA.
Pour ça, je vous renvoie à un excellent podcast.
Mais lequel est Benoît Paire dans ça ?
Le Basket Time de mardi répond à cette question. Non, mais c'est vrai, il y a quand même. Non, il y a encore des méga stars américaines qui sont peut-être au-dessus quand même.
Après, c'est difficile à juger.
Meilleur que Yanis actuellement ?
Je sais pas, je suis pas sûr.
Hein.
Après, tu t'essayes de comparer, t'essayes de voir ce que Team USA était capable de faire en basket FIBA. Je me rappelle qu'à une époque, Carmelo Anthony, le Melo FIBA, a fait des cartons. Il me semble qu'à Rio ou à Londres, il a fait 37 points en 14 minutes, Carmelo Anthony.
Contre le Nigeria, donc
le problème de Team USA, c'est que la marque est souvent dispatchée parce que les mecs jouent 20 minutes et il y a tellement de mecs capables de scorer. Mais si tu fais une Team USA avec un seul joueur qui doit shooter 25 fois comme Curry ou Kevin Durant, peut-être que ces garçons-là seront capables d'envoyer des 40 et des 45 pions sur du basket.
Alors, je vous propose un débat improvisé qu'on va soumettre au commissionnaire NBA. Est-ce que c'est pas le bon moment pour réformer le All-Star Game, faire Europe, États-Unis?
Peut-être. Ça a toujours été le fantasme.
Ouais, États-Unis, reste du monde.
En fait, c'est le fantasme depuis des années, mais avant, c'était clairement impossible. Il n'y avait pas ce talent.
Ça veut dire que les joueurs africains jouent avec la team reste du monde.
Reste du monde contre
États-Unis, reste du monde.
Après, Joel Embiid est européen maintenant. Donc, il est plus considéré comme africain.
Il va que quoi qu'il en soit. Il n'est pas américain.
Tous ceux qu'on a cités là, qui sont à l'Euro, tu rajoutes Embiid, tu rajoutes un ou deux joueurs africains. Je veux dire, ça peut être très très costaud. Pascal Siakam, tu peux le rajouter.
Oui. Est-ce que Karl-Anthony Towns, République dominicaine, c'est USA ou c'est reste du monde?
Bon, ça, ils s'arrangeront entre eux, mais je pense qu'ils le prendront s'ils en ont besoin. Est-ce qu'il y aurait match? Il y aurait un vrai match.
Je pense qu'il y aurait match, mais
le
problème, c'est qu'il y aurait peut-être trop de compétition sur ce match-là, sur un All-Star où les mecs ils vont un petit peu en dilettante. Là, tu joues sur une suprématie et l'ego, et peut-être que ça pourrait faire des dégâts.
Les Américains mettraient en doute leur hégémonie sur le monde. Et je suis pas sûr qu'ils soient capables.
Mais c'est ça qu'on veut justement, qu'il y ait de la tension, qu'ils soient vénères,
que ce soit un peu dégueulasse. Parce qu'il y aurait un risque.
Le gros problème, c'est qui prend le shoot de la gang côté européen, là? À qui tu le donnes le ballon? À Luca?
Bien sûr. Ouais, mais de toute façon, le problème, c'est qu'il est meilleur de jeu. Donc la remise en jeu, c'est Luca le ballon premier, mon grand. Donc, mis à part à le rattraper dans les mains, je sais pas qui va le prendre.
Le JO, il a donné après Pelic.
Oui, mais
maintenant il a compris qu'il fallait
peut-être qu'il a regretté d'ailleurs.
Sauf que s'il le donne à Jokic, c'est peut-être pas pareil, ça se finit peut-être différemment aussi. Hein.
Mais ça serait, ça fait quelques années qu'on fantasme de ça serait un truc incroyable.
Il en est pas question, Arnaud, c'est pas d'actualité. La question qu'on se pose sur le All-Star Game NBA.
Fred l'a dit très bien, les Américains vont pas mettre en doute leur hégémonie. Imagine, ils se font battre, taper par une sélection étrangère. Ça la fout un peu mal. Et puis en plus, c'est pas trop l'esprit du All-Star Game où c'est la fête un peu partout. C'est du basketball hurrah. Même si nous, on aimerait bien voir un vrai match.
Ce serait la guerre.
Je pense pas que ça soit tout à fait dans les cartes.
Est-ce qu'il y aurait un Français dans l'équipe reste du monde?
Rudy Lagob.
Ah, Rudy, ouais. Probablement.
Mais All-Star Game, il parlait de faire un nouveau truc aussi. Je sais pas si ça va arriver. Un concours de 1 contre 1. Ce serait lourd, ça.
Donc, c'est pas drôle.
Un concours de 1 contre 1. Il parlait de faire ça au All-Star Game. Ah, un concours de 1 contre 1.
On envoie à Marassi ou pas du tout?
Ça, c'est bien. Ça.
Basket Time, donc, c'est tous les mardis en podcast. Mais cette semaine, on vous gâte avec un numéro exceptionnel sur l'Euro. C'est l'heure de notre partie historique.
Du côté des Yougoslaves, c'est Predrag Stojakovic qui commencera avec numéro 8. Avec Jarić numéro 12, Drobnjak numéro 11, Tomasevic numéro 14. Les Yougoslaves, on peut vous l'annoncer. Sans trop se tromper, eh bien, sont champions d'Europe, André. En tout cas, eux, ils le croient. C'est le cas de Stojakovic et de Tomasevic. Au lancer franc, Lado Stefanovic. 7 joueurs ont scoré côté Yougoslave. 5 joueurs à plus de 10 points. Victoire triomphe de la Yougoslavie, Richard. Fantastique victoire de cette équipe yougoslave. Fantastique équipe yougoslave.
Alors c'est pas une archive des années 70, hein, vous avez reconnu la voix de Richard Dacoury, et c'est seulement 2001. Bon, alors vous avez un peu exagéré sur la qualité sonore là, parce qu'en 2001 on a déjà quand même des moyens un peu plus modernes audiovisuels là. Hein.
C'est le RTF.
T'es pas content.
Non, pas du tout.
On a l'impression que je pense que c'est un match des années 60.
C'est ça, oui,
c'est
vrai. Alors, donc, quelle est l'équipe championne d'Europe, la meilleure de l'histoire selon vous? On va démarrer avec cette année 2001, justement, avec une finale Turquie-Yougoslavie, parce que Fred, c'est ton époque, c'est ce basket-là qui t'a fait rêver.
Oui. Alors concrètement, j'aurais pu choisir l'équipe de 89, hein, mais c'était une équipe cheatée un peu sur NBA 2K.
Pourquoi?
Ça aurait été une équipe cheatée parce que c'était la grande Yougoslavie. Donc, dans l'équipe, il y avait Petrovic, Paspaj, Danilovic, Kukoč, Zdoč, Vrankovic, Divac, Radja. Donc pour moi, c'était vraiment cheaté. Et j'ai choisi 2001 parce que c'était la dernière année de la Yougoslavie. C'est la dernière fois qu'on a vu la Yougoslavie représentée vraiment à un championnat d'Europe. Alors dans cette équipe, c'est pas trop mal non plus. Hein. Il y a Bodiroga, Stojakovic, Jarić, Tomasevic, Gurovic, Obradovic, Rakosevic et Tarlac, coaché par le même coach que le coach actuel de la Serbie, par Pešić. C'est une équipe qui, sur le papier, est juste monstrueuse. Bodiroga, tout le monde le connaît, joueur extraordinaire. Stojakovic, qui est mort et qui a réussi à renaître grâce à toi il y a quelques temps. Donc vraiment un joueur fantastique.
Non, je l'ai surtout tué et ressuscité.
Et ressuscité, c'est ça qui est très très fort. Et en fait, quand tu vois tous ces joueurs étaient des joueurs dominants dans tous les championnats où ils sont passés, des joueurs incroyables, des joueurs qui ont réussi à jouer ensemble, encore une fois, grâce à un mec comme Pešić qui est arrivé à gérer ses égos assez incroyables. Alors ils font un Euro assez fantastique où ils ne perdent pas un seul match, évidemment. Ils battent en finale la Turquie avant d'avoir battu le pays hôte, l'Espagne, juste avant. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment la qualité de jeu de cette équipe. On a entendu Richard Lacroix qui disait on a 5 joueurs à plus de 10 points. Et voilà, c'était un peu ça aussi.
On dit parfois que le gros point faible de ces équipes-là était le mental.
Exactement.
Ça ne leur est pas arrivé.
Ça ne leur est pas arrivé parce que c'était que des tueurs à gages. Ça, c'est que des mecs qui voulaient gagner, que des mecs qui étaient prêts à écouter Pešić. Encore une fois, c'était important d'avoir un coach capable de mobiliser tout le monde. Et Pešić a été capable de le faire. Honnêtement, moi, j'ai été très impressionné.
Ça ressemblait à quoi le basket de 2001 ? Si on compare à aujourd'hui.
Un ballon, des paniers et une à trois points.
Non, c'était peut-être un peu plus défensif, un peu plus dur, mais avec des joueurs de ce talent-là, c'est compliqué de défendre très fort. Juste pour l'histoire, j'ai joué avec Milan Gurovic et ils ont joué pendant 7 euros contre la Croatie. Milan Gurovic a un tatouage sur le bras d'un des bourreaux des Croates.
Qui
a tué beaucoup de personnes croates. C'est un dingo complet. Et ce mec a joué donc avec moi, et chaque fois qu'on devait se déplacer en Croatie, comme par hasard, il ne faisait pas le voyage. Et donc, ils ont joué dans cet Euro contre la Croatie. Donc, imaginez un peu la rivalité qu'il pouvait y avoir entre ces deux pays.
Stephen, à toi. Ouais.
Bah écoute, moi, je vais rester dans la Yougoslavie. Je vais prendre l'Eurobasket 1989, qui a lieu à Zagreb, Yougoslavie.
L'équipe cheatée de Fred.
Exactement. Ça a lieu à Zagreb, à l'époque, la Yougoslavie, mais maintenant la Croatie. À l'époque, l'Eurobasket, c'est un petit format. Il n'y a que 8 équipes qui sont qualifiées, 2 poules de 4, les deux premiers, demi-finale, finale. La France joue 7 euros, avec comme joueur phare Richard Dacoury, Hervé Dubuisson, Fred Hufnagel, entre autres. C'est un Euro avec un duel annoncé entre Nick Galis, le grec, tenant du titre, puisque les Grecs ont gagné en 87 l'Eurobasket chez eux en Grèce avec Nick Galis, MVP et meilleur marqueur du tournoi avec 37 points de moyenne.
Il y avait Fasoulas déjà ?
Exactement, il était là. Les Yougoslaves, eux, ont été battus en demi-finale en 87 et ils attendent les Grecs de pied ferme chez eux à Zagreb. On attend l'avènement de Mozart, Drazen Petrovic, la star de la Yougoslavie. Les deux équipes sont ensemble dans la même poule. Les Yougoslaves détruisent les Grecs 103 à 68. Pour le dernier match de poule, la France joue la Yougoslavie. Les Yougoslaves sont déjà qualifiés. Le coach met Drazen Petrovic au repos sur la première mi-temps. Il ne joue pas. Mais les Français sont dans le match, inquiètent un petit peu les Yougoslaves. Et là, le coach a dit « Bon, Drazen, il va falloir que tu rentres sur le terrain. » Donc Drazen rentre, joue en deuxième mi-temps. Il joue l'intégralité de la deuxième mi-temps. Bilan, 30 points en 20 minutes à 100% au tir. Aïe. Victoire des Yougoslaves.
Aïe. À 100%.
100%, il n'a pas loupé un tir.
Ça pique.
Ça rend fou, ça.
Cette époque yougoslave, cette équipe-là, il y a encore du Deno Radja, du Vlade Divac, du Toni Kukoč, Predrag Danilović, Zarkos Paspal, Joris Doce. Ça tape les Italiens facilement en demi-finale avec 24 points de Drazen Petrovic. Et là, la revanche contre les Grecs de Nick Galis a bien lieu en finale. Les Grecs qui sont débarrassés in extremis de l'URSS d'un petit point derrière les 45 points de Nick Galis. Les Grecs n'existent pas dans l'enfer de Zagreb avec les 10 000 personnes. Plus 20 à la mi-temps, plus 21 au final. Le duel Drazen-Nick Galis tient malgré tout toutes ses promesses. Je vous invite à aller voir le match, il est dispo sur YouTube. C'est un mano à mano exceptionnel. Petrovic, 28 points, 12 passes avec 3 tirs loupés seulement. Et Nick Galis, 30 pions. Nick Galis finira meilleur marqueur de la compétition avec 35 points de moyenne. Mais Petrovic, logiquement, élu MVP de la compétition avec 30 points par match.
Est-ce que tu as trouvé mieux, Arnaud ?
Écoute, je vais prendre l'Espagne 2011. On va remuer un peu le couteau dans la plaie parce que 2011, c'était avant cet Euro 2022. On se demandait est-ce que c'est pas l'Euro le plus relevé de l'histoire. Et souvent, parmi les acteurs, on disait attention, n'oubliez pas 2011. Nico Batum, d'ailleurs, dans les grandes gueules du sport, l'avait dit parce que c'était un Euro incroyable en termes de niveau avec Dirk Nowitzki, notamment avec Andrei Kirilenko pour les Russes. Et l'Espagne 2011 qui fait face à notre équipe de France, notamment en finale. On s'en souvient tous. Mais on n'avait pas n'importe quelle équipe de France. On était avec Joachim Noah. On était vraiment bien, on était solide, on avait faim. Sauf qu'en face, les deux Gasol, Pau et Marc Gasol, avec également Juan Cannavaro, une équipe espagnole absolument incroyable, qui nous bat finalement 98-85 en finale. Victoire, on va dire logique, mais elle était trop forte cette équipe. Elle était incroyable. On avait des Ricky Rubio, des Rudy Fernandez évidemment qui étaient déjà là. Serge Ibaka aussi, puisqu'on parle un petit peu des naturalisés, il était présent dans la dans la raquette espagnole. Et évidemment, c'est une douleur pour nous. Bon, deux ans après, on aura pris notre revanche, même si les mauvaises langues diront qu'il n'y avait pas Pau Gasol en 2013. Mais voilà, cette équipe d'Espagne qui nous a fait tant de mal était quand même une formidable équipe.
Alors la question, c'est est-ce que l'Espagne 2011 aurait battu la Yougoslavie 89, Fred?
Ah, aucune chance.
Non, mais
est-ce que les Bulls de 96 auraient battu les Warriors de 2021?
Bien sûr. Les Bulls auraient battu tout le monde de toute façon.
Est-ce que tu te rappelles cette anecdote de Jordan où on lui pose la question, est-ce que vos Bulls auraient battu les Warriors? Et il répond oui. Et de combien? Il dit bah de 4-5 points. Il dit ah bon, pourquoi aussi serré? Il dit ah, parce qu'on a 60 ans. On a 60 ans aujourd'hui.
Mais je crois que c'est... Alors est-ce qu'elle est vraie cette anecdote? Parce que on raconte la même histoire avec les champions du monde anglais de 66.
Au foot?
Ouais. Avec, je crois que c'est Bobby Robson ou je sais pas lequel.
Donc Jordan a pompé le...
Alors soit il a pompé, soit cette histoire n'existe pas.
Peut-être.
Et c'est une légende qu'on retricote.
Pierrot, est-ce que je peux te donner une information importante pour le podcast?
Absolument.
Shane Larkin est forfait jusqu'à la fin de l'Eurobasket et va nécessiter...
Alors on recommence le podcast à zéro.
Et il va se faire opérer de la main.
Ah, alors,
du doigt.
Alors là, donc ça change tout parce que d'abord,
ça
on
change
est
tout pour son
vraiment
club,
favori
Deloup,
pour la France.
Et ça change tout pour notre...
Là, c'est 30 minutes à trouver.
Et pour l'Euroleague aussi, donc ça fait quand même un candidat...
Qui joue 34 minutes depuis le début de l'Eurobasket pour la Turquie.
Très bien. Bon, alors ça nous arrange, même si c'est toujours mieux aussi d'affronter les meilleurs quand même.
Écoute, si Yanis pouvait avoir la cheville en vrac jusqu'à la fin du tournoi aussi et que Nikola Jokic se fasse.
Il est légèrement touché d'ailleurs.
Si Jokic pouvait manger un mauvais kebab à Berlin, une belle sauce blanche un peu.
À Berlin, ils sont trop bons les kebabs, c'est vrai. Il n'y en a pas des mauvais comme chez nous. Allez, c'est l'heure du quiz spécial Euro. J'ai pas trop coupé les cheveux en quatre. C'est parti là en premier. C'est parti chez Sting.
Ouais, comme chaque semaine, c'est parti.
C'est parti là-bas en premier.
Et là, c'est après ou pas?
C'est Alex.
Le roi des corvères ménagères.
Ouais, exactement. C'est plus trash que ça. Hein. C'est plus violent.
Fuck you.
Bah, tu te rapproches.
Asshole, motherfucker, son of a bitch.
I lock that shit up, boy. Fermez sa gueule à cette merde. Il est un peu rageux quand même le Bigger Staff, hein.
Oui.
On remarque pas tout de suite. Bon, aujourd'hui il n'est pas là. Fred, Arnaud, Stephen, des questions spéciales Euro. Vous êtes prêts? C'est parti.
Euro, 7 euros là ou?
Non, Euro, tous euros confondus.
Il est même petit, Mike.
On démarre facile, mais il faut être très précis. Je vous demande une réponse très précise. Quel était le club de Luka Doncic avant le Real Madrid?
Novo Mesto.
Non. Ah,
c'est Maribor. Novo Mesto aussi.
Qu'est-ce que tu dis, Arnaud? Non.
Ljubljana.
Ljubljana.
Alors Ljubljana, oui, mais quel est le nom du club, vous l'avez pas?
Olympia Ljubljana.
Excellent. L'Union Olympia Ljubljana. Ouais, je te l'accorde parce que c'était dur.
Ouais,
quand même,
sauf que non, parce que l'Union Olympia Ljubljana, elle s'est faite après, donc à mon avis, c'est Ljubljana.
Ah non, c'était
Ljubljana. Non, c'était Olympia, Ljubljana. Elle était déjà faite cette union.
Ouais, mais il m'a dit Olympia Ljubljana, je l'accorde quand même, Fred.
Sois
beau joueur, c'est pas ton genre de.
Mais oui, mais c'est.
Mais si tu veux, tu peux donner un tiers de point à chacun.
C'est Bigger Staff qui m'a
voulu. Mais alors, en préparant cette question. Oui. Quand même, je me suis rendu compte.
Ça, c'est vraiment une question spéciale Eurobasket, ça, Ljubljana.
Je ne le savais pas que la Serbie. Enfin, que Luka Doncic aurait pu et voire dû jouer pour la Serbie parce que ses parents souhaitaient qu'il représente la Serbie. Oui. La Serbie n'a jamais appelé en catégorie de jeune.
Belle mistake.
C'est dommage.
Ouais, pourquoi tu peux te tromper parfois?
Belle, c'est dommage, j'aurais fait une belle petite doublette.
Bah, Jokic, Doncic, c'était pas mal.
Alors, le premier point, c'est pour Steve. On va réviser notre titre de champion d'Europe 2013.
Oh,
c'est facile quand même, mince.
C'est facile.
Ah, c'est facile, champion d'Europe.
C'était il y a 9 ans.
C'était il y a 9 ans. Quels étaient les trois pivots des Bleus?
Joan Petro, Kevin Serafin et Alexis Aginsa.
Yann Maimi? Non.
Non.
Alors,
Petro, Aginsa, Yann Maimi.
Petro, Aginsa, c'est bon. Il y en a un troisième, je considère comme pivot, qui peut jouer aussi 4.
Babac?
Non.
Un qui peut jouer
4. Geoffrey Lauvergne,
c'est par là. C'est par là. Là, je pensais que c'était pour Arnaud, cette question. Qu'est-ce que tu fais, Arnaud? Tu dors? Tu manges un kebab?
Un kebab, peut-être un bon kebab.
J'ai peur qu'il
y ait une. Au currywurst aussi, il y a le choix.
Ah, c'est plus dur quand on est à l'extérieur. Hein. On est moins dedans, crack, pour rentrer dans le quiz. Deuxième point pour Stephen. Ah, un autre champion d'Europe 2013, Mikael Gelabal.
Ouais, il l'a pu bientôt.
Quelles sont les deux franchises NBA par lesquelles
Seattle,
il est passé?
Denver et Seattle.
Seattle, c'est bon.
Lakers,
Denver,
pardon.
C'est pas bon. Lakers, c'est pas bon.
Utah?
Minnesota.
Sixers.
Minnesota, il est très fort. Il est très fort parce qu'il a juste fait 10 jours à Minnesota en janvier 2013 après être revenu en Europe.
Il a juste fait le camp, le training camp des Lakers.
Et pourquoi il a un point? Il a dit, on a dit qu'un.
Non, non, j'ai dit Denver. J'avais dit Denver.
Non, c'est moi qui ai dit Seattle.
Oui, mais Seattle.
Ah, d'accord, ça comptait pas. Ok.
Allez, je te donne un point aussi.
Le training camp des Lakers, je crois que Kobe Bryant a eu Michael Jabal dans le pif, il lui a mis à l'amende de ouf.
Il espérait être pris et ils l'ont jamais appelé. Donc ça fait 3 points pour Stephen. Alors.
Arnaud, à combien?
Arnaud est à 0. D'accord. Pour l'instant. On cherche un ailier.
Oui.
D'1m98. Drafté par les Knicks en 2014.
C'est tout?
Mais qui a démarré
sa
carrière en Europe.
Un ailier drafté par les Knicks.
Il a joué notamment deux saisons au Pana.
Mario Zagna.
Il est revenu en NBA en 2019. Il a été champion.
Saric, non?
Et il est présent à 7 euros.
Ouais, c'est Saric?
Non. Je vais vous dire qui il a été champion, ça va peut-être aller plus vite du coup. Il est présent lors de cet Euro.
Oui, ok.
Il est revenu en NBA en 2019.
Alors
il a pas un rôle majeur, mais il a été champion avec les Bucks.
Mamukashvili.
Non, c'est très simple en fait.
Ersan Ilyasova.
Non.
Non, avec les Bucks, il est champion.
Ouais. Il est présent à cet Euro. Il est présent à cet Euro, c'est une des belles histoires de cet Euro en plus.
Quoi ?
Parce qu'il n'est pas tout seul à cet Euro.
Antetokounmpo.
Lequel ?
Thanasis.
Impossible.
Fallait vous introduire dans la brèche là quand il a dit Antetokounmpo. 4-0, attention, ça commence à faire.
Non, 4-1, Fred, il a un.
Fred, il a un demi, Fred.
Mais pourquoi je vois un demi ?
Parce que tu m'as dit Seattle.
La question, c'était deux choses. Franchises. Donc j'ai dit, oui.
Bah oui, mais ce qui était dur, c'était Minnesota, c'était pas Seattle. Quand
donc tu aurais dû dire quelle est la franchise autre que Seattle.
Oui, mais ça fait des questions compliquées, alambiquées. J'essaye d'éviter parce qu'après, je me retrouve dans le jingle. Alors, je vais vous diffuser un extrait sonore. Vous allez devoir me dire qui est en train de parler. C'est parti.
Bonsoir, c'est un très grand moment dans l'histoire du basket que l'on s'apprête à vivre ensemble ici même à Bercy, puisque dans moins de 5 minutes, eh bien l'équipe de France.
Répète, j'ai pas entendu
Montel.
Non.
En quart de finale.
Ouais, Eric Bénard.
Eric Bénard, putain. Bernard, pourquoi tu dis Bernard, moi?
T'as dit Bernard?
Ben oui, je savais que c'était Bernard. Bénard, il dit Bénard.
Bernard Montiel.
Mais.
C'est Eric Bénard.
Ben oui.
Vous savez de quel match on parle ou pas?
Pardon ?
Contre McDonald's All-Star machin là ?
Non, c'est un France-Turquie, c'est pour ça que je voulais passer. En 99, en quart de finale, France-Turquie.
Ah oui, d'accord.
Alors, on va rester sur ce match.
Ne dis pas d'accord, j'y étais.
Combien de joueurs du 5 de départ êtes-vous capable de me donner ?
Mais t'es sérieux ?
Je suis très sérieux.
France-Turquie en 99 ?
En 99.
Bah, t'es connerie, Pierrot.
Fred parlera en dernier.
Pourquoi ? Parce qu'il est dedans.
Fred parlera en dernier. Arnaud, combien de joueurs peux-tu me donner ?
99.
1.
Moyen même.
1. Steve.
Je vais dire 4.
4, il est chaud.
Ah, du 5 majeur, pardon. Du 5 majeur.
5 majeur.
Ah, pardon.
Le coup, je vous donnerai droit à l'erreur. Si vous me donnez un joueur qui n'y est pas, vous avez droit à une deuxième chance.
4, je veux dire 3 alors.
3.
4.
4.
Ouais,
est-ce que quelqu'un en chérit ?
Non, je laisse.
Arnaud, tu laisses. Steve, tu laisses.
Ouais, je laisse.
Avec 4, je te donnerai 2 points. Pour les autres, j'aurais donné 3 points parce que c'est un peu plus facile pour toi.
C'était en 99.
Ouais. C'est pas un bail. Enfin,
si t'es dans l'équipe, c'est quand même facile.
Mais je me rappelle plus du tout.
C'est pas Jean-Pierre Papin, il est pas hyper mnésique. Hein,
Rigaudot,
c'est bon. Ouais.
Bilba,
c'est bon.
Forest,
c'est bon.
T'es pas starter, toi ?
Isaac ?
Non.
T'es pas starter, toi ?
Je suis pas sûr. En 99, j'ai 22 ans, je suis pas sûr. Ouais, moi ?
Bah, c'est qui alors, le Big Man ?
Bah,
c'est toi, bah oui, t'es starter.
Bravo Fred. Il en reste
toi. Tu te rappelles
de Big Man. Fred, t'aurais pu être Cyril Julien en fait.
Je te donne 2 points, mais j'aurais kiffé que tu dises pas Fred Weiss parce que ça aurait été totalement surréaliste.
C'était qui le cinquième ?
Si vous le trouvez, je vous donne un point, Arnaud ou Steve.
Yann Bolato ?
Non.
Sierra ?
Non, vous pouvez le trouver, franchement.
Alain Digbe.
C'est un mec.
Oizo ?
Abdul Wad ?
Non. Ah oui, Abdul Wad, qui l'a dit en premier ?
C'est Fred.
C'est Fred. Ouais. Bah, Fred, je ne donne pas le point.
Avec le délai, j'avais dit.
J'ai l'impression quand même sur ce quiz,
j'ai dit Fred ou Steve, je vous donne un point si vous me trouvez le cinquième. Toi, tu as déjà eu 2 points sur la question.
Dommage.
Alors, le score est très bizarre. 4 points pour Stephen, 2,5 pour Fred et 1 point pour Arnaud. Il nous reste une petite série là, à trouver. Il n'y
a pas de charade aujourd'hui ?
Non, je n'ai pas fait de charade. Vous pouvez trouver plusieurs. Vous pouvez marquer plusieurs points. Vous allez me donner tour à tour le nom d'un MVP de l'Euro depuis 2001. Il y en a, je vais vous dire combien, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8.
Okay.
On démarre avec Arnaud.
Je ne vais pas faire plaisir à Stephen. Dirk.
Oh, t'es vraiment un salaud.
Nowitzki, c'est bon. Fred.
Gasol,
2 fois Gasol, c'est bon. Steve.
Tony P.
Tony Parker, c'est bon. On va rentrer. Oh, ça reste trouvable, mais plus dur maintenant. Arnaud.
Kirilenko,
c'est excellent. C'est excellent, Kirilenko. Bravo. Fred. Allez, tu peux trouver. Il y en a encore à trouver. Je ne vais pas te donner les nationalités, mais bon.
Ouais, Navarro.
Excellent, il est là. Il s'est raccroché aux branches avec ouais. Juan Carlos Navarro. Steve.
Goran Dragic,
évidemment, fallait y penser. Il en reste deux. Il en reste deux qui sont trouvables, qui ne sont pas faciles, mais qui sont trouvables. Il y en a un dont on a déjà prononcé le nom dans cette émission et pas l'autre. C'est à toi.
De 2001.
Ah, Arnaud. 2001, pardon. 2001. Saronas, Yasukevicius.
Excellentissime. Bravo, Arnaud.
Et ça tombe sur Fred, le dernier.
Fred. Tu l'as ou tu l'as pas?
Je pense que je l'ai, mais j'ai plus son nom en fait. C'est son nom. C'est le mec qui nous a battu en 2006.
Diamantidis.
Non, c'est pas ça. À toi, Steve.
À moi. Ouais. C'est quelle année? Tu sais pas.
C'est 2001.
Ah, c'est celui de 2001. Alors, c'est pas Thierry Gadou. 2001. Ouais. 2001.
Ah, c'est long.
C'est long. Ouais, 2001, c'est... je vais balancer un nom au hasard.
Balance un nom parce que ça peut être celui, ça peut être le bon. Franchement, sûr. Si tu balances un nom, ça peut être.
Je sais même pas qui est champion en 2001.
Je vous ai dit qu'on a déjà prononcé son nom dans cette émission. C'est un énorme indice, Stojakovic. Toi, Armar, que tu es. Tu vas pouvoir le dire avant quand c'était ton tour. Bon, j'accorde un point à Arnaud. Donc, victoire de Stephen. Bravo, Stephen. 4 points.
Tu as
une fois de plus gagné ce quiz. C'est incroyable quand même.
Merci, Pierrot.
C'est même le MVP de Basket Time, ce mec. Hein.
Mais Fred a un demi-point.
Ah oui, un demi-point, ça fait 3 du coup.
Voilà.
Dommage, ça suffit pas. À mardi prochain.
Ciao, ciao.
Et alors, si vous voulez gagner le maillot de l'équipe de France de basket, ah oui, ce n'est pas fini, on vous offre un très bon
cadeau. Mardi prochain, ce sera peut-être un Basket Time preview France-Serbie, maybe.
Ah, ce serait beau. Ce serait beau. Ouais, ça dépend parce que ça peut être programmé le mardi. Hein.
Ouais, oui, mais qu'est-ce qu'on fait alors?
On s'adaptera. D'habitude, bien entendu, ou alors on attendra la fin du match.
J'ai l'impression que Basket Time est très flexible.
Très flexible,
cette année,
bien sûr. On s'adapte à tous les systèmes.
Toutes les
alors,
défenses.
Si vous voulez gagner le maillot d'équipe de France, vous vous rendez sur la page Twitter RMC Sport, vous retweetez et vous laissez un commentaire sur le tweet du podcast du jour. C'est très simple et il y aura un tirage au sort pour gagner un maillot de l'équipe de France dédicacé par Nicolas Batum. À mardi prochain.
RMC Basket Time.